Radio Prague, les informations.
La Commission européenne autorise la Tchéquie de puiser de nouveau dans les fonds européens. Le Fonds pour l'environnement a dépensé illégalement plus d'un million d'euros. Élection présidentielle 2013, l'actrice Tania Fischerova annonce sa candidature. À partir de ce lundi, la Commission européenne permet à la République tchèque de nouveau de puiser les subventions dans les fonds de l'Union européenne. Une déclaration du vice-ministre de l'aménagement du territoire, Daniel Braun. Les subventions pour certains programmes importants, pour des milliards d'euros, restent cependant bloquées car la gestion de ces programmes sera encore examinée individuellement par la Commission. Selon un audit européen, le fonds d'État destiné à l'environnement a dépensé en 2009 près de 29 millions de couronnes, plus de 1,1 million d'euros de rémunérations illégales. Cet argent provient des dotations européennes du programme pour l'environnement. Le site d'information actualnie.cz précise que si l'Union européenne refuse de prendre en charge cette somme, le fonds devra en rembourser l'intégralité. La procédure contre 11 personnes impliquées dans l'affaire Promopro se poursuit. Le représentant du ministère public a rejeté les plaintes de ces personnes contre la décision d'ouvrir une procédure concernant le financement douteux des activités organisées par elles dans le cadre de la présidence tchèque de l'Union européenne en 2009. Parmi ces personnes, il y a l'ancienne vice-ministre de la Défense Jana Hendrichova, deux directeurs de section au ministère de la Défense, Radomir Karlik et David Mličko. Au cours de la première moitié de cette année, 1354 personnes en République tchèque ont perdu en partie ou complètement les prestations maladie pour ne pas avoir observé le régime du traitement prescrit par leur médecin. Les employés de l'Office de gestion de l'assurance sociale ont réalisé au cours des premiers 6 mois de cette année 79 133 contrôles. L'actrice Tania Fischerova a annoncé dimanche sa candidature à la présidence de la République, une élection qui doit avoir lieu en mars 2013 et pour la première fois au suffrage universel direct. Il lui reste à présenter au Parlement 50 000 signatures de citoyens la soutenant pour pouvoir participer au scrutin. Elle est la troisième femme à se déclarer candidate aux côtés de l'eurodéputée chrétien-démocrate Zuzana Rojtova et de la présidente du parti conservateur et eurosceptique Souveraineté Jana Bobošíková. L'agence de voyage pragoise Dolce Vita se trouve en état d'insolvabilité et dépose le bilan. Actuellement, une centaine de ses clients se trouvent en Tunisie, d'autres 200 personnes ayant acheté les services de l'agence, ne pourront pas partir. C'est ce qu'a déclaré à l'agence de presse CTK le président de l'association des agences de voyage tchèque, Tomio Okamura. Météo. Mardi, fête de toutes les Christina, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie sera dégagé et les températures maximales s'échelonneront de 25 à 29 degrés. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter, qui cède maintenant le micro à Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, merci à Václav Richter pour son bulletin d'information. En pleine période de crise et de coupes budgétaires, les hauts fonctionnaires et les hommes politiques pourraient voir leur salaire augmenter. Une mesure gouvernementale qui n'a pas l'heure de plaire aux syndicats ni même à l'opinion publique. Direction ensuite le Rudolfinum où il est possible de voir à l'heure actuelle une exposition d'art vidéo consacrée au visage. Bonne écoute de ce programme. En cette période où la priorité semble être donnée à la rigueur budgétaire, où faire des économies est le maître mot de tout un chacun, l'augmentation des salaires des législateurs et des juges, que pourraient prochainement voter les députés, risque de ne pas passer inaperçue. Selon le gouvernement qui a donc décidé jeudi dernier de soumettre cette mesure à la Chambre des représentants, il s'agirait de se conformer à un arrêt de la Cour constitutionnelle abrogeant une loi qui réduisait le salaire des juges et un amendement qui gelait celui des hommes politiques jusqu'en 2014. Un argument fallacieux pour l'opposition et démenti par la Cour constitutionnelle elle-même. Pierre Maignan.
Le projet d'augmentation des salaires des juges, des ministres, des députés et des procureurs a été proposé par le ministère du Travail et des Affaires sociales et le gouvernement a décidé de le soumettre au vote des députés. Selon Peter Nečas, le Premier ministre, il s'agit d'une décision logique suite à l'arrêt pris par la Cour constitutionnelle qui abroge une loi réduisant le salaire des juges et un amendement gelant celui des politiciens jusqu'en 2014. En période de vache maigre, alors que le gouvernement invite tout le monde à se serrer la ceinture, il n'aurait donc simplement pas eu le choix.
C'est une démarche obligée après la décision de la Cour constitutionnelle. Le gouvernement n'a jamais songé à revenir sur cette question des salaires avant 2014 et il garde le sentiment que les juges aussi devraient être soumis au même régime que tous les citoyens de ce pays. Cela signifie que quand l'État réalise des économies, cette catégorie professionnelle est également concernée.
Selon lui, le gouvernement a économisé près de 8 milliards de couronnes en réduisant la masse salariale. Il estime cependant qu'il est normal de respecter la décision de la Cour garante du respect de la Constitution. Pourtant, il semble que personne n'ait forcé la main du gouvernement. Ainsi, Pavel Rychetsky, le président de la Cour constitutionnelle, a tenu à rappeler que la décision de son institution ne concernait que les juges.
La Cour constitutionnelle a seulement défini les contours du salaire de base dans le cas des juges et en aucune manière celui des autres hauts fonctionnaires.
Refuser de baisser le salaire des juges ne signifie donc pas en préconiser l'augmentation. L'opposition et les syndicats n'ont pas tardé à exprimer leurs critiques. Pas sérieux pour les uns, injuste pour d'autres, ce projet dénoterait l'absence de bon sens du gouvernement. Lubomir Zaorarek, le vice-président du Parti social-démocrate, a annoncé que celui-ci y était opposé.
Nous ne soutenons pas la position du gouvernement qui aurait dû assumer ses choix, mais comme je l'ai constaté, il n'assume pas sa pensée à renvoyer la balle aux députés. Je peux dire personnellement que j'exprimerai auprès de mon groupe parlementaire l'idée que ce n'est certainement pas le moment d'augmenter les salaires des hauts fonctionnaires.
Les députés, actuellement en vacances, se pencheront sur cette hausse de leur salaire au mois de septembre. Ceux-ci sont actuellement calculés sur la base d'un coefficient lié au salaire minimum dans la fonction publique. Les parlementaires devront plancher sur 5 scénarios de hausse de ce coefficient. Selon un récent sondage réalisé par le Centre pour l'étude de l'opinion publique, les fonctions de députés et de sénateurs seraient parmi les moins considérées par les Tchèques. Il y a fort à parier que cette réputation ne s'améliorerait guère si les parlementaires s'augmentaient entre eux, alors même que les deux chambres n'en finissent pas de voter des mesures d'austérité pour les autres.
Au premier étage du Rudolfinum, dans de grandes salles plongées dans la pénombre, des écrans de télévision ont pris la place des tableaux. Le musée accueille en effet une exposition d'art vidéo consacrée au visage, une exposition qu'a visitée Ariane Batutovan.
L'art vidéo, qui dérive de l'art filmographique, apparaît au milieu des années 60. L'exposition présente 18 travaux d'artistes internationaux des débuts de l'art vidéo jusqu'à nos jours. Ladislav Kesna, commissaire de l'exposition Faces, Visage, rappelle les origines de ce courant.
Depuis le milieu des années 1960, au moment de la démocratisation de la caméra, les premiers artistes ont beaucoup expérimenté avec les images réelles et les images télévisées. La plupart des œuvres de l'art vidéo ont été créées pour des moniteurs de télévision.
L'exposition reprend un thème traditionnel de l'art visuel, la représentation du visage. Les genres du portrait et de l'autoportrait dédiés à l'étude de la figure humaine sont repris dans l'art vidéo et y occupent une place centrale. Cette pratique artistique propose un nouveau regard sur le rapport à soi qui passe par les réflexions sur l'identité, les émotions, les expressions du visage et la représentation de l'esprit. Au fil de l'exposition, le visiteur découvre différentes manières d'interpréter un visage en mouvement. Le visage peut être le lieu d'un récit de vie, comme chez Marina Abramovic, qui propose plusieurs séquences de vie sur une période d'une trentaine d'années. Fiona Tan, elle, se penche sur l'être intime qui émane d'un visage en présentant de jeunes japonaises participant à un rite de passage à l'âge adulte. Peta Weibel anime quant à lui le visage du Christ, tel qu'il est représenté par Piero della Francesca, et le visage du poète autrichien Nikolaus Lenau, à l'aide d'une superposition avec son propre visage, qui n'est pas sans rappeler l'autoportrait à la fourrure d'Albrecht Dürer. Douglas Gordon, tout comme son homonyme inversé Gordon Douglas, réalisateur de Frankenstein, s'intéresse à la transformation et au monstrueux dans une installation sur le thème du double dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Lady Staff Kestner nous en dit plus.
Dans cette vidéo au ralenti, Confession, Douglas Gordon a choisi trois séquences en noir et blanc du film Dr. Jekyll and Mr. Hyde, réalisé par Ruben Mamoulian en 1931. Il montre sur deux écrans une image et son négatif. Ce dernier est d'ailleurs diffusé à l'envers.
Voilà, et à noter que l'exposition Faces, The Phenomenon of Face in Video Art, en français visage, au pluriel le phénomène du visage dans l'art vidéo, se tient actuellement au Rudolfinum et ce jusqu'au 16 septembre. Plus d'informations au www.galerierudolfinum.cz. On passe à la deuxième partie de notre émission. Pour la 13e année consécutive, le semi-marathon de Prague s'est couru fin mars. La course a été un grand succès pour les organisateurs, mais elle l'a aussi été pour l'Éthiopien Hatedesu Tsegay, vainqueur dans un temps record à Prague et auteur de l'une des toutes meilleures performances de tous les temps, ainsi que pour les nombreux participants français réunis à l'ambassade de France après l'arrivée. Cette rubrique sportive proposée par Guillaume Larguet est une rediffusion du 2 avril 2012.
Sport en République tchèque.
Oui, je suis très satisfaite, c'est une très jolie ville. Impeccable, bien sympa. J'ai mis deux heures, je pensais mettre 2h50, c'est le premier semi que j'avais mis ce temps-là, mais comme je n'étais pas super bien entraînée, les pavés, j'ai trouvé ça difficile. Courir sur les pavés, c'était assez difficile. Mais sinon, non, j'ai pas été embêtée par le vent, peut-être parce que j'étais trop dans la course, j'ai pas eu froid, donc non, ça allait.
11 000 coureurs à pied, parmi lesquels Nadine de Lyon et plus d'une centaine d'autres Français, ont participé samedi au 13e semi-marathon de Prague. Un record de participation qui, à 24 secondes près, aurait pu être accompagné d'un autre record bien plus marquant encore. 24 secondes, c'est en effet ce qui a manqué à l'Éthiopien Hatedesu Tsegay, vainqueur en 58 minutes et 47 secondes pour établir un nouveau record du monde de la distance. Mais le vent défavorable qui a gêné les coureurs, notamment dans les 5 derniers kilomètres, a sans doute empêché de meilleures performances. Malgré tout, le jeune Éthiopien de 20 ans a signé à Prague la meilleure performance mondiale de l'année et la 5e meilleure performance de tous les temps. Chargé de la participation des coureurs d'élite au sein de la Société du Marathon International de Prague, Yana Moberlai était partagée entre deux sentiments à l'arrivée de la course.
Un temps inférieur à 60 minutes, c'est presque un miracle, alors que dire d'un temps inférieur à 59 minutes. Je n'ai pas de mots pour exprimer mon admiration. C'est vraiment une performance extraordinaire. Je ne peux être que satisfaite, car c'est exceptionnel. D'un autre côté, nous pouvons quand même nourrir quelques regrets par rapport aux conditions météo. Avec une météo ne serait-ce qu'un poil plus clémente, les coureurs auraient été encore plus rapides. Néanmoins, nous avons la meilleure performance mondiale de l'année, et je pense que Prague peut être fière du spectacle qu'elle a vu.
Fier de lui, François de Clermont-Ferrand l'était lui aussi, comme il l'a expliqué lors de la réception organisée après la course à l'ambassade de France.
Ben aujourd'hui, moi, je suis content de moi parce que j'ai mis 1h39, c'est mon record personnel. Donc vraiment une grosse satisfaction pour moi pour venir à Prague pour battre mon résultat, mon meilleur chrono. Ben disons que le semi-marathon de Prague rentre dans ma préparation pour le marathon d'Albi. Donc je suis entraîné depuis déjà 4 semaines et là c'était le passage, le chrono à passer pour faire le marathon d'Albi, quoi. Un bon test et un test concluant pour moi.
Qu'avez-vous pensé du parcours de Prague? Un parcours très, très pavé, il y a aussi les rails des tramways, c'est pas toujours évident. Quel était votre sentiment par rapport à ça?
Oui, ben, on a déjà fait le marathon de Rome, donc on est habitué un petit peu à courir sur des revêtements comme ça. Mais c'est vrai qu'entre les pavés qui sont quand même relativement plats aujourd'hui, il faut faire attention vraiment avec les rails de chemin de fer. Mais c'est un parcours très roulant. Hein, la seule vraiment difficulté, c'est un peu le vent de retour qu'on avait. Mais sinon, un parcours vraiment agréable à faire.
Parmi la foule d'amateurs qui ont couru dans les rues de la capitale tchèque, figuraient comme chaque année plusieurs personnalités, parmi lesquelles l'ancien footballeur Pavel Nedved. Comme il y a 2 ans de cela, le Ballon d'Or 2003, aujourd'hui dirigeant à la Juventus de Turin, a participé au semi-marathon dans son pays d'origine, cette fois dans un temps final de 1h44 minutes et 25 secondes. Et pour Nedved, comme pour François et bien d'autres encore, ce semi-marathon ne constituait qu'une étape dans la préparation au marathon qui, à Prague, se tiendra le 13 mai.
Nous en avons bien profité malgré le froid, c'était une course très agréable. Les gens ont été formidables tout le long du parcours, ils m'ont aidé à tenir un rythme de 5 minutes au kilomètre, j'en suis plutôt content. Maintenant ce n'était que 21 kilomètres, ça va encore, mais un marathon c'est le double. Et je sais bien que les 21 kilomètres suivants sont beaucoup plus longs que les premiers. J'ai beaucoup de respect pour le marathon, j'en parle depuis 2 ans, mais je vais bientôt avoir 40 ans et je n'ai plus le temps d'attendre, alors il est fort possible que je sois au départ du prochain marathon.
Comme Pavel Nedved, François et Georges, venus eux de Forbach en Lorraine, avaient déjà participé au semi-marathon de Prague en 2010. Et comme il y a 2 ans, François et Georges repartiront une nouvelle fois avec un bon souvenir, et pas seulement sportif, de leur passage en République tchèque.
Bah moi j'ai fait 2h14, mais disons que j'étais pas spécialement préparé. On n'a pas eu le temps de se préparer, on va dire, correctement. Donc nous sommes partis à 4 ensemble au départ et nous avons fini à 4.
Voilà. Eh ben moi, Georges, j'ai fait 1h56 minutes. Et puis mon objectif était de moins de 2 heures. Et puis il a été atteint et je suis très content également de ma performance. En plus de ça, Prague, c'est une belle ville. On vient également pour passer encore un bon week-end et puis voilà. Quoi.
Et qu'avez-vous pensé du parcours en général ?
Ben, il y a 2 ans, on l'a déjà fait il y a 2 ans. Donc le parcours, on le connaissait quand même plus ou moins.
Plus ou moins, ouais.
Et puis donc ça nous convient, c'est pour ça qu'on est revenu 2 ans après, quoi.
Oui, Prague est une très belle ville. Donc nous, disons que comme on court pas spécialement pour faire des performances, donc on a le temps de regarder un peu le paysage, l'architecture. Donc en fait, on regarde un petit peu ce qui se passe autour.
À part la course, comment se passe votre séjour ? Vous êtes venu avec mesdames ?
Non, disons que là, nous sommes venus à 7, donc 6 hommes et une femme. Et nous visitons la ville, la vieille ville. Puis le soir, nous allons manger dans des restaurants et puis... Après, on va un petit peu dans les boîtes de nuit, des choses tout à fait normales.
Après la course ?
Après la course, voilà. Le sérieux dans la course et après le divertissement.
Comme Nadine de Lyon, François de Clermont-Ferrand et bien d'autres encore en provenance des 4 coins de la France, François et Georges de Forbach étaient présents à la réception organisée samedi en fin d'après-midi à l'ambassade de France. Une réception à laquelle étaient invités tous les Français ayant participé au semi-marathon, qu'ils soient venus de France ou résident en République tchèque. L'occasion pour tous de visiter et de découvrir le bâtiment baroque de l'ambassade de France à Prague, comme l'explique l'ambassadeur M. Pierre Lévy.
C'est la première fois que nous avons lancé une telle invitation, parce que nous pensions, et je dois reconnaître que l'initiative, l'idée vient aussi de mes collaborateurs qui sont coureurs, nous pensions que c'était une bonne occasion de retrouver des compatriotes qui font le déplacement à Prague, qui sont amoureux de la course à pied. Et la course à pied, ce n'est pas un sport comme un autre, je trouve. C'est aussi un style de vie. Et donc, de les retrouver à l'ambassade de France, de les accueillir à l'ambassade de France dans ce palais Bucquois, qui est un bel endroit dont les Français sont fiers. Donc, c'était en quelque sorte un peu une pause culturelle, touristique et française dans cette journée qui était très, très active, très sportive pour eux.
Quel a été l'écho de cette initiative ? Quelles ont été les réponses ? Et êtes-vous satisfait de la participation ? Est-ce que vous vous attendiez à autant de monde ou moins de monde ?
Nous ne savions pas du tout combien de personnes viendraient. Et j'ai été vraiment surpris par le nombre de personnes qui sont venues. Nous allons faire les comptes, mais je pense de l'ordre de 150, 170. Donc c'est vraiment une très bonne affluence. Bon, j'en suis ravi. J'ai même vu des Français qui habitent ici, que l'on voit très rarement. C'est aussi l'occasion à la fois de discuter avec des compatriotes qui viennent de tous les coins de la France, de parler de ce qu'ils font, et puis aussi d'expliquer ce qu'est une ambassade, ce que nous faisons ici. Et j'ai eu beaucoup de questions sur cet aspect-là.
Quel type de questions ?
Finalement, à quoi ça sert ? Qu'est-ce que vous faites ? Aujourd'hui, les présidents de la République se parlent entre eux, se rencontrent. Est-ce qu'une ambassade est encore utile ? Et je leur répondais que bien sûr c'est utile, et je leur expliquais pourquoi, parce qu'il faut comprendre une réalité, expliquer quelles sont les positions des autres. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes ensemble dans l'Union européenne que nos autorités, nos ministres se croisent, que forcément nous nous connaissons bien. Je crois qu'il y a un gros travail à faire. Et ce que je retiens aussi de tout ça, c'est que au-delà de l'aspect chaleureux, convivial de se retrouver entre Français, c'est aussi l'occasion d'expliquer ce que nous faisons à nos compatriotes et chez eux, parce que nous travaillons avant tout, d'abord pour eux.
Question un peu plus personnelle, plus sportive aussi. Avez-vous assisté à la course? Et quel est le rapport que vous entretenez avec le sport? Êtes-vous sportif?
Pour être tout à fait franc, je suis un sportif intermittent. J'ai très souvent de bonnes résolutions. J'ai pas toujours le temps, compte tenu de mon activité, pour y donner suite. J'ai vu passer les coureurs. Je cours de temps en temps, mais je ne suis pas coureur moi-même, je pratique d'autres sports comme la natation ou le golf.
Et puis le mot de la fin à Nicolas Delacoste, premier conseiller de l'ambassadeur, qui participait lui samedi à son deuxième semi-marathon.
C'était la deuxième fois à Prague et je veux dire que pour moi, le départ du marathon, du semi-marathon avec la musique de Smetana, c'est à chaque fois un émerveillement. On a les larmes aux yeux, on part, on est plusieurs milliers à partir au même moment et c'est une très très belle course. C'était la deuxième fois, oui, ici à Prague. J'ai fait 2h07 et en effet, arrivé au bout, j'étais tout à fait fatigué. J'ai dû aller aux urgences pendant une heure et demie pour me rétablir. Oui.
Voilà, c'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague. Tous ces sujets, vous le savez, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, le www.radio.cz/fr, sous forme de podcast, en streaming ou également sous forme d'articles. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.